Nous allons prendre nos Bibles aujourd'hui et regarder ensemble dans le livre du prophète Isaïe, le chapitre 54. Et mon texte principal, c'est dans le verset 10, où Dieu ici donne des promesses de sa bonté et de ses compassions au peuple d'Israël, mais pas le peuple naturel, mais ses élus parmi ce peuple d'Israël, ceux qu'il a choisis depuis l'éternité et pour qui le Seigneur Jésus-Christ allait venir lorsque Dieu a ordonné et que ce Christ allait payer la dette de ce peuple choisi. Donc, ici, dans Isaïe, le chapitre 54, c'est la suite d'un chapitre que, si nous avons connu bien la Bible, nous connaissons bien le chapitre 53, ce chapitre qui exalte le Seigneur Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu, qui devait venir et souffrir à la place de ce peuple que Dieu a ordonné au salut. Et tout ce chapitre 53 parle de Christ et parle du châtiment qu'il a enduré, comme c'est écrit dans Isaïe 53 et le verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quel beau chapitre, quelle joie pour ceux qui sont les objets de la grâce de Dieu, cette grâce éternelle. Bien sûr, Dieu est juste, il est saint, et il ne peut pas mettre de côté sa justice ou sa sainteté pour sauver quelque pécheur que ce soit. Mais à travers le chapitre 53, nous voyons clairement comment Dieu est Dieu et juste tout en justifiant des pécheurs qu'il sauve. Et donc, il est juste et il est sauveur. Donc, dans Isaïe 54, c'est la suite de tout cela, que ce que Dieu a ordonné au salut, il se réjouissent dans la bonté de Dieu. Ils se réjouissent dans ses miséricordes. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que le verset 10 est le texte principal de ce message, lorsque c'est écrit « Quand les montagnes s'éloigneront et quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel. Notez, qui a compassion de toi? Dieu est miséricordieux envers tous les êtres humains dans ce sens qu'il ne punit pas les êtres humains immédiatement. Il faut dire que tous les êtres humains vivent sous ces miséricordes de Dieu tous les jours maintenant. Et que Dieu retient son jugement pendant un certain temps, mais s'ils ne sont pas de ceux pour qui Christ a donné sa vie et payé leur dette, donc ces miséricordes sont pour un moment. Et puis après vient le jugement. Mais ici, en particulier, quand c'est écrit, quand les montagnes s'éloigneraient et quand les collines chancelleraient, il est en train de dire que les montagnes partiront plutôt de leur lieu que sa bonté s'éloignera de ceux qu'il aime. Donc, c'est impossible que les montagnes se déplacent. Les montagnes sont fixées. Mais c'est une manière de parler ici que si les montagnes pouvaient être enlevées et les collines pouvaient trembler, ça serait plutôt cela que pour Dieu lui-même de retirer son amour de ceux qu'il aime en Jésus-Christ avec un amour éternel. C'est ce qui est le problème aujourd'hui avec la prédication populaire qui dit que Dieu aime tous les êtres humains. Si tel était le cas, donc il ne devait pas avoir donc le jugement, parce que l'amour de Dieu éternel, ceux qu'il aime, il sauve. Il n'y a aucun pécheur à l'enfer que Dieu aime. S'ils sont à l'enfer, c'est parce que Dieu, dans sa souveraineté et dans sa justice, a déterminé que ces pécheurs-là soient jugés, condamnés. Comme ça a été dit de Jacob et Ésaü dans Romains 9, Jacob, il a aimé, et Ésaü, ce n'est pas qu'il a aimé moins, mais il a haï. Tel est le droit de Dieu qui est juste, non seulement en ce qu'il sauve, mais en ce qu'il condamne. Donc c'est la réalité que nous voyons ici dans le verset 10 de mon texte, en Ésaïe 54, qui démontre comment l'amour de Dieu est éternel et comment ses compassions qu'il a pour les pécheurs qu'il a ordonnés au salut sont sûres et certaines. Cela doit nous encourager beaucoup dans des moments où nous sommes découragés et nous savons que nous sommes pécheurs et nous péchons. Qu'est-ce qui empêche alors Dieu de nous condamner? C'est cette alliance de paix dont il parle dans le verset 10 ici. « Mon alliance de paix ne chancellera point. » Ça, c'est une alliance éternelle que Dieu a établi avec son Fils qui est éternel et que Christ, en son temps, devait venir et accomplir ce salut à l'égard de ces pécheurs pour qui il est venu. Donc, quel encouragement cela est pour nous. Il faut dire, quand on remonte au verset 1, c'est pourquoi c'est écrit « Réjouis-toi stérile ». Toi qui n'enfante plus. C'est dans le sens spirituel ici qu'il y a des moments dans chaque pays où il semble que Dieu n'est pas à l'œuvre. On regarde et on ne voit pas ceux qui sont enfants de Dieu. Et cela est déterminé par Dieu lui-même. C'est lui qui détermine ceux qui vont enfanté physiquement, mais aussi spirituellement. Je sais que pour la plupart, les élus se réunissent en petit nombre partout dans le monde. Ce n'est pas la voie qui est large, qui mène à la condamnation que tout le monde poursuit dans la religion. Mais c'est une voie étroite et néanmoins, c'est Dieu qui détermine ceux qui vont entendre et ceux qui vont rester dans leur péché. Ici, dans Ésaïe 54, verset 1, cette expression « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse de ta joie et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. » C'est-à-dire, c'est vrai, il y a des moments où il semble que Dieu a laissé tout un pays à poursuivre sa propre voie. Et ceux qui comprennent l'évangile sont peu nombreux. Il y a Élie en son temps qui se lamentait, croyant qu'il était seul, mais Dieu l'a encouragé en disant « Non, il y a 7000 autres qu'il a réservés à lui-même qui n'ont pas plié le genou devant le faux dieu Baal. » Donc ici, il est en train d'annoncer que même si en Israël, à cette époque, il y avait peu, Ésaïe, lorsqu'il prêchait le Seigneur en le suscitant pour l'envoyer prêcher, lui disait cela, qu'il allait l'envoyer à un peuple endurci, qui a des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre. Mais ça ne devait pas rester comme ça pour toujours, que Dieu a déterminé un temps où, quel que soit le désert, que l'évangile de Christ devait être répandu et annoncé non seulement en Israël, mais dans le monde entier, et qu'il devait avoir des multitudes à travers le temps qui devaient être converties de leurs idoles au vrai Dieu, à Christ. Donc c'est ici alors une question de grande joie pour l'Église. C'est pourquoi c'est écrit « Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. » Les douleurs de l'enfantement sont pour un temps, mais lorsque l'enfant entre dans le monde, quelle joie! Et c'est de ça que Dieu annonce ici, « Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » C'est une expression de dire que ceux qui se croyaient être déjà mariés à Dieu seront peu nombreux en comparaison avec les fils de la délaissée. C'est-à-dire, je crois ici, il s'agit d'une distinction entre les païens, les gentils, qui devaient se convertir à Dieu, considérés comme les fils de la délaissée, en comparaison avec les fils de celle qui est mariée, c'est-à-dire cette alliance que Dieu a faite avec Israël, que les nations des gentils devait entrer dans ce royaume de Dieu en plus grand nombre que les Juifs qui avaient les oracles de Dieu, qui avaient la loi. Mais néanmoins, peu d'entre eux étaient véritablement enfants de Dieu. C'est ce que Paul écrivait aux Romains, que ce n'est pas tous ceux qui sont d'Israël qui sont Israël, mais les véritables fils de Dieu sont ce que Dieu lui-même a choisi. Ici, le prophète est en train d'annoncer ce que Dieu allait accomplir, même si en Israël, quoi qu'ils avaient le tabernacle, qu'ils avaient les sacrificateurs, qu'ils avaient les sacrifices, tout représentant le Seigneur Jésus-Christ, néanmoins, ceux du monde que les enfants d'Israël naturels ignoraient et considéraient comme des chiens. Parmi eux, Dieu allait susciter un peuple, une église, une assemblée plus nombreux que ceux qui existaient en Israël à l'époque. Donc c'est pourquoi il dit dans le verset 2, « Élargis l'espace de la tente, de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affirme tes pieux. » Il est en train de leur dire de se préparer maintenant pour ces païens que Dieu allait attirer à Christ, qui étaient aussi élus que ceux qui étaient en Israël que Dieu a choisi et pour qui il envoyait le Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Et plus que l'Église devait grandir, plus elle devait se préparer pour tout ce qui allait se passer. Et nous savons en lisant le Nouveau Testament que les épîtres étaient écrites à ces assemblées mixtes qui avaient une partie juive et l'autre partie venait de parmi les païens, et il y avait des issues, il y avait des problèmes de culture et de compréhension qui sont venus. Mais à travers ces épîtres, l'apôtre Paul et autres rappelaient ceux qui étaient juifs que c'était selon le dessein de Dieu qu'il était en train de faire entrer dans son royaume, ceux qu'il avait choisis. Et donc, ceux-là devaient les recevoir avec joie et ne pas persister dans des conflits qui devaient se susciter quand ceux-là se réunissaient ensemble. Alors, c'est pourquoi il parle ici dans le sens d'ouvrir la porte, élargir l'espace de ta tente et qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Et c'est la même chose est vraie aujourd'hui quand le Seigneur fait entrer ses élus de partout dans le monde dans son Église, que nous préparons la place de les recevoir avec joie, sans distinction de personne ou bien juger un pécheur quelconque basé sur sa race ou sa culture ou sa position dans la vie. Parce que Christ lui-même a dit qu'il est venu pour appeler ceux qui sont pauvres de l'esprit, qui n'ont rien mérite à gagner la faveur de Dieu par leur mérite, qu'on les reçoit comme tout autre, comme nous avons nous-mêmes été reçus. Et verset 3 dit, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Quand on lit ça, je sais que il nous semble incroyable que cela parle de ce que Dieu a ordonné au salut. Parce que, comme je disais, nous réunissons petit nombre. Nos assemblées ne sont pas comme nous voyons dans la religion, avec des masses qui poursuivent un faux évangile. Mais quand on considère dans le monde entier, si on pouvait rassembler ceux dans le monde entier, quoi qu'ils se réunissent dans de petits nombres, dans leurs endroits, mais dans le monde entier, ça nous montre combien Dieu est miséricordieux et combien sa compassion agit envers des pécheurs tels que nous sommes. C'est écrit, ta postérité envahira les nations. Dieu a déjà dit dans le livre d'Apocalypse que Christ est venu pour racheter un peuple de toute langue et de tout peuple, de toute race. Et que un jour, dans l'éternité, chacun que Dieu a ordonné au salut sera rassemblé autour du trône de la grâce de l'agneau et chantera les honneurs et les louanges de l'agneau qui a été immolé. C'est de cela que le prophète Isaïe écrit ici quand il dit « Ta postérité envahira des nations et peuplera les villes désertes ». Ce message de Christ, Dieu a ordonné à ce que ça propage, soit propagé dans le monde entier. Et de temps en temps, on en prend par écrit ou bien par la technologie, on reçoit certaines réponses de ceux qui sont dans des lieux, comme c'est écrit ici, des villes désertes, dans des lieux qui sont éloignés des grands centres. Pourtant, là, on apprend qu'il y a un des élus. Et ils écrivent pour exprimer leur joie pour le message de Christ qui est annoncé avec clarté. Donc, cela est écrit pour notre encouragement. C'est pourquoi il dit dans le verset 4, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Je sais que nous devons endurer les oppositions de ce monde et de ceux qui sont attachés à une religion qui est contraire à l'évangile, mais que nous ne craignons pas, simplement parce qu'ils sont plus nombreux que nous. Et Dieu a toujours sa main sur ceux qu'il a choisis et pour qui Christ est mort. Donc nous ne devons jamais craindre, être abandonnés et relégués à la confusion ou bien la honte. Quand c'est écrit ici, car tu ne seras point confondu, le fait d'avoir cette foi en Jésus-Christ tel qu'il est révélé dans les Écritures, nous ne serons point confondus. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Je sais que d'autres se moquent en disant, oui, mais le message que tu prêches est tellement borné. Comment est-ce que tu sais que ce Christ que tu prêches est le véritable? Je sais que la Bible l'annonce tel qu'il est, et il est souverain en ce qu'il sauve. Ce n'est pas un Jésus populaire que tout le monde poursuit, non. Mais j'ai cette confiance que je ne dois jamais rougir. On n'a jamais raison d'avoir honte ou être déshonoré pour avoir confié dans ce Christ qui est représenté ici dans les Écritures. C'est plutôt les autres qui ont poursuivi leur voie d'œuvre et de la volonté de l'homme, que si Dieu ne leur fait pas grâce, ils seront certainement confondus dans le jugement. Mais pour nous, c'est écrit, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Nous sommes nés dans ce monde pécheur. Et quand on constate ce que nous étions avant que Christ ne s'est révélé en nous par son esprit, on regarde en arrière et il faut dire que nous avons raison d'avoir honte de ce que nous étions avant d'être attirés à Christ. Mais si l'esprit de Christ maintenant nous a attirés à lui et que nos cœurs ont été convertis à Christ, c'est parce que Christ a déjà payé la dette de tous nos péchés. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir honte en regardant nos vies de péché et se demander, mais comment est-ce que Dieu peut sauver un pécheur tel que je suis? Dans tout cela, c'est l'esprit de la grâce de Dieu qui nous console du fait que si Christ a payé la dette, il a versé son sang pour un pécheur tel que je suis, donc il n'y a plus de condamnation. Quelle joie de constater, de contempler ce message. Et c'est écrit dans le verset 4 d'Ésaïe 54, tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Quel que soit ce que nous étions, lorsque nous étions encore dans le monde et que l'Esprit de Christ n'avait pas encore agi pour nous faire naître de nouveau, maintenant que nous avons reçu l'Esprit de Christ, on ne se souvient plus de ce que nous étions, seulement nous contemplons ce que nous sommes. Et en Christ, nous avons toutes les bénédictions de Dieu spirituelles. En Christ, le fait d'être élu, c'est une bénédiction. Le fait d'être racheté et appelé, c'est une bénédiction. Et c'est ça qui soulage notre cœur. Dans le verset 5, nous voyons la raison pour tout cela. Il dit, car ton Créateur est ton époux. Et l'Éternel des armées est son nom. Et son Rédempteur est le Saint d'Israël. Et il se nomme Dieu de toute la terre. Il est le Dieu de toute la terre. C'est pourquoi il a choisi les pécheurs de toute nation, de toute langue et de tout peuple. Il est le Dieu de toute la terre. Donc nous le voyons ici, notre relation avec lui, si nous sommes un de ses fils de sa grâce. D'abord, cette relation est comme notre Créateur, celui qui nous a créés, non seulement physiquement, mais spirituellement. Le fait de naître de nouveau est une création spirituelle. Il prend ce qui est néant et il fait de cela maintenant une nouvelle création. Et la vie que nous avons est de lui. Aucun homme n'a la vie éternelle en lui-même, mais c'est en Christ que cette vie est donnée. Et donc, il est notre Créateur, mais notez bien aussi notre époux. Ce n'est pas seulement qu'il nous a créés, mais ceux qui sont liés à lui dans son alliance éternelle, grâce à l'œuvre de Christ, sont liés à lui pour toujours. C'est ça qui fait le fondement et l'assurance de notre salut. C'est en Dieu comme notre Créateur, mais aussi comme notre époux. Et l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Ça, c'est le Christ. Ça, c'est le Fils de Dieu qui est le Saint d'Israël. Il n'y a pas de sainteté en nous, mais Christ est la sainteté de son peuple. C'est cette justice qu'il est venu accomplir et que lorsque Christ est mort à la croix, que cette justice était une fois pour toutes imputée au compte de ceux qui sont le véritable Israël de Dieu. Christ est le Rédempteur, il est le médiateur de cette alliance éternelle faite avec son Père depuis l'éternité à l'égard de son Église, et cela est vrai dans l'Ancien Testament comme le Nouveau. Il y a certains qui supposent que l'Ancien Testament, ça concerne seulement la nation juive, et que le Nouveau, voilà, ça représente maintenant le reste du monde. Non, même dans l'Ancien Testament, Dieu avait son peuple qu'il avait choisi pour qui Christ devait venir dans le monde. Et ce n'était pas seulement parmi les Juifs, mais aussi les nations. Il y a beaucoup d'exemples comme Ruth dans l'Ancien Testament que Dieu a attiré à lui. Rahab, plusieurs d'autres qui n'étaient pas de la nation d'Israël, mais qui étaient élus de Dieu, pour qui Christ est venu payer leur dette. Donc, il est le Rédempteur de son peuple, et il se nomme Dieu de toute la terre. Voilà le message que la Bible annonce concernant ceux qui appartiennent à Christ, d'être rachetés par lui. Ceux de l'Ancien Testament devaient offrir les sacrifices sanglants, mais il n'y avait pas de salut dans ces sacrifices. C'est en celui que ces sacrifices représentaient, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça continue dans le verset 6 d'Ésaïe 54. « Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. » Sans Christ, sans cette alliance de la grâce de Dieu envers des pécheurs, on serait comme cette femme délaissée et au cœur attristé, sans espoir. Mais voilà l'encouragement qui est donné à ceux que Dieu a ordonné au salut. qui ne peut pas laisser ses enfants délaissés. Laisser ses enfants continuer dans la condamnation, non. Il les a aimés depuis l'éternité. Cette alliance a déjà été établie entre le Père et le Fils. Et donc, c'est ça qui était donc leur espoir et leur salut. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Ça, c'est notre état dans le péché. Nous sommes comme des enfants délaissés à cause de la chute d'Adam. Et si Dieu lui-même n'avait pas ordonné à ce que Christ vienne, ce que la Bible appelle le dernier Adam, qu'il vienne et qu'il accomplisse tout ce qui est nécessaire pour le salut, on serait tous sous la condamnation toujours. Et il y en a qui l'a laissé. Le fait que l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, ça ce n'est pas une promesse pour tous les êtres humains. Ici, il s'agit de ce qu'il a ordonné au salut. C'est comme certains aujourd'hui, ils se marient à une femme en particulier, quoiqu'il y a beaucoup d'autres femmes dans le monde, mais son amour est attaché à cette femme. Voilà l'exemple que nous avons ici de cet amour de Dieu pour ce peuple qu'il a élu et choisi parmi les pécheurs délaissés. Et c'est ceux-là à qui il s'est marié dans son Fils. Et Christ, par sa vie et sa mort, maintenant s'est uni à ce peuple pour toujours, comme une femme qui lui appartient. Quelques instants, verset 7, il dit, « Je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Quel mot joyeux pour nous de lire que quoi qu'il semblait, quand il dit ici, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Ça, c'est ce que les conséquences d'être en Adam. Mais pendant des années, Dieu exerçait toujours sa compassion envers ce peuple en attendant à ce que le Seigneur Jésus lui-même vienne dans le monde et qu'il paie la dette de ceux qu'il avait choisis. Donc, cette colère devait demeurer sur ceux-là, même les élus. Ils étaient sous la condamnation de la loi jusqu'à ce que Christ vienne et paye la dette. Et une fois qu'il est venu payer la dette, alors tout cela maintenant a été enlevé. La colère de Dieu a été enlevée de ses élus lorsque Christ est mort. Il faut bien faire la distinction. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient des enfants de colère, comme le monde. Il y a des enfants de colère et il y a des enfants de l'amour de Dieu, mais il faut dire que la condamnation de nos péchés était toujours sur nous jusqu'à ce que Christ est venu payer la dette. C'est de ça qu'il parle, que ça ne devait pas durer pour toujours, parce qu'il dit dans le verset 8, « Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur éternel. » Tout ce qu'il fait dans le salut est grâce à cet amour éternel, grâce à cette volonté de Dieu éternelle qui devait s'accomplir dans le Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans le verset 9, « Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer quand les montagnes s'éloigneront. Alors nous revenons maintenant à notre texte du jour. Que il serait plus possible pour les montagnes de s'éloigner que pour Dieu de changer son amour en colère. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il dit, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Combien sont grandes les compassions de Dieu pour ses enfants. Et lorsque nous considérons cela, notre cœur est humilié devant un tel Dieu et nous réjouissons en lui pour toute sa grâce qu'il manifeste envers des pécheurs tels que nous sommes. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Amen.